Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1971, à l'infirmerie de la centrale de Clairvaux, deux détenus, Buffet et Bontemps, prenaient en otage une infirmière et un gardien, retrouvés égorgés après l'assaut des forces de l'ordre. Jugé avec Buffet à la cour d'assises de l'Aube en juin 1972, Bontemps était défendu par deux avocats abolitionnistes, Maître Lemaire et Maître Badinter. C'était alors la première fois que Robert Badinter défendait un homme encourant la peine capitale. Bien que durant le procès, l'on eût reconnu que lui n'avait pas tué, Roger Bontemps fut condamné à mort et guillotiné avec Claude Buffet à la prison de la Santé le 28 novembre 1972. En 2012, dans Mémorable, Robert Badinter faisait au micro de Joël Calmette le terrible récit de ce qu'avaient été les derniers moments de ce dossier, depuis l'ultime plaidoirie des avocats devant Georges Pompidou pour obtenir de lui la grâce présidentielle, jusqu'au lendemain de l'exécution de Bontemps. Robert Badinter nous dit ici combien cette expérience fut pour lui déterminante par la suite dans son combat pour l'abolition de la peine de mort. L'exécution, sixième des 15 émissions avec Robert Badinter au micro de Joël Calmette dans Mémorable. Première diffusion le 11 février 2002 sur France Culture.
C'était la première fois que je défendais un homme qui encourait réellement la peine de mort. Et j'ai probablement découvert là ce que cela signifiait comme intensité et comme angoisse. Souvent, au réveil, à l'aube, à cette heure-là, entre le réveil et le profond sommeil, je recherchais obsessionnellement. Qu'est-ce qui fait que nous avons échoué? Ils ont reconnu qu'il n'avait pas tué, pourquoi est-ce qu'on l'a condamné à mort? Restait le pourvoi en cassation, il restait la grâce. Les choses sont allées vite. Le pourvoi en cassation fut rejeté rapidement pour les deux. Je n'en étais pas surpris. Et restait la grâce. Alors là aussi, absurdement, j'avais une conviction, depuis la condamnation prononcée à Troyes, le président Pompidou, je pense que si il est abolitionniste, ce que je croyais, il graciera les deux. Et évidemment, je le savais, une très forte pression de l'administration et des syndicats pénitentiaires pour que les deux condamnés à mort soient exécutés, qu'il n'y ait pas de grâce, je me disais. Même dans cette hypothèse, il refusera la grâce de Buffet et il accordera la grâce à Bontemps. C'est un président de la République. Il aura témoigné ainsi à la fois de fermeté et d'humanité. Je m'étais vraiment convaincu de cela. Et je ne dis pas que j'étais en paix, mais c'était plus qu'un sentiment. Je m'étais persuadé que les choses iraient ainsi. On avait ramené Bontemps à Paris et j'allais le voir presque tous les matins. Mes enfants allaient à l'école. J'étais petit, je déposais les garçons à la maternelle et je continuais en voiture jusqu'à la Santé. Et là, je gagnais le quartier des condamnés à mort et je parlais à Bontemps. Les surveillants étaient très gentils, notamment un surveillant chef. qui parlait avec beaucoup de sensibilité, pas de sensiblerie, mais de sensibilité, de bon temps. Et bon temps était pas angoissé, comme je l'avais vu, résigné. Lui n'y croyait pas. Je lui parlais de ce qui l'intéressait, le sport, les performances des athlètes. Je le faisais parler de sa famille, de ses parents. Et j'avais remarqué qu'il avait commencé à écrire sur un cahier. Il y avait un cahier toujours là, qui ensuite a été envoyé par le maire à ses parents. Et pour écrire, il portait des lunettes, des petites lunettes fines, qu'il gardait ou qu'il avait sur le nez quand j'entrais dans la cellule. Et je me disais que si la vie de Bontemps avait été différente, et elle aurait pu être différente, il aurait été sans doute aisément un instituteur. Un instituteur de village dont il avait le visage. Et cette espèce de simplicité dans les rapports humains. Un matin, je reçus un coup de téléphone des services du président de la République, me fixant l'heure du rendez-vous que le président de la République nous accordait pour soutenir le recours en grâce que nous avions déposé. Nous allâmes à l'Élysée, tous les deux, le maire et moi. Je m'en rappelle très bien, nous sommes arrivés à pied, sous un parapluie, il pleuvait des cordes. Et traversa la cour. Et nous fûmes reçus par M. Pompidou avec une grande courtoisie. Je le connaissais, ou plutôt je l'avais rencontré plusieurs fois pendant la période où il était en réserve de la République. Il était fort courtois, attentif. Nous avions une demi-heure. C'était notre dernière plaidoirie pour Bontemps. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que il y avait une note posée sur le bureau du président de la République, note à laquelle il se référait de temps en temps, qui avait dû être préparée par ses services, ou les services de la chancellerie, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je l'ai recherché ensuite et je ne l'ai jamais trouvé. Elle devait appartenir aux archives privées du président de la République. Et cette note accablait Bontemps. C'était ça qui m'avait frappé. C'est-à-dire que la présentation qui avait été faite au président de la République du rôle de Bontemps était non pas sans rapport avec la réalité, mais biaisait celle-ci. Quasiment, Bontemps devenait l'inspirateur, le mauvais génie de Buffet. C'était lui qui avait conçu ce projet, c'était lui qui avait entraîné Buffet, ce qui, quand on connaissait les deux hommes et leur personnalité, était à proprement parler aberrant. C'était là quelque chose d'extraordinairement angoissant, cette note. Et le président de la République, jetant les yeux sur cette note, pour nous faire telle ou telle remarque, qu'il fallait contrebattre. Le maire était très émouvant dans les quelques dernières minutes. Très. Puis le président de la République nous a raccompagnés. J'avais absurdement emmené avec moi un petit livre sur la peine de mort que je lui laissais, lui rappelant l'éclat du courant abolitionniste, comme il aimait la littérature, dans les lettres françaises. Je crois que je lui avais aussi glissé un article ou un chapitre de Camus. Enfin, c'était ridicule de ma part. Mais c'était l'impossible qu'il fallait tenter. Puis nous sommes en pré-congé et nous sommes repartis, tous les deux. Pas brillant quand nous traversâmes la cour de l'Élysée, toujours sous la pluie. Là, puis nous nous séparâmes devant l'Élysée. Et là, pour la première fois, j'ai senti ma confiance s'altérer. Alors, je suis retourné voir Bontemps. Je savais que cette fois-ci, le temps allait s'accélérer et que la décision allait être prise très vite, car c'était l'usage pour ne pas laisser le condamné dans l'attente. Il se trouvait que M. Pompidou devait faire un voyage en Afrique. Lorsque la presse a pris le retour de Pompidou, que d'un seul coup, une sorte de formidable angoisse m'envahit lorsque j'entendis à la radio, le matin, que, je crois que c'était un lundi, qu'un sondage venait d'être publié dans un journal, un grand tirage, proche du président de la République, et qui faisait état d'un pourcentage considérable, 67% de Français étaient partisans de la peine de mort. Qu'on publie un tel sondage à un tel instant, cela m'a paru comme sorte de signe. Et de signe de présage funeste. J'allais à la santé, je retrouvais Bontemps, il écoutait la radio, il avait donc eu connaissance du sondage, il m'accueillit avec son calme habituel et toujours ce sourire résigné, bienveillant. Parlait ce jour-là de ses parents. Et quand je l'ai quitté ce matin-là, il m'a remercié. J'ai toujours au revoir. Et là, il m'a remercié. Et je suis reparti avec une grande honte. En fin de journée, dans mon bureau, j'ai reçu le coup de téléphone que je guettais. C'était fin d'après-midi, après la fermeture de la prison, et la voix d'un substitut me dit... Maître, c'est pour vous aviser de ce que l'exécution de votre client Roger Bontemps aura lieu à la santé à 4 heures demain matin. Et je vis à 4 heures et me dis oui, comme il est d'usage. Il y avait un monde fou dans la rue de la Santé. Ce n'était pas le secret qui avait prévalu. Les barrières, puis un nombre considérable de journalistes. Il faisait froid. Le maire a garé la voiture. Et je suis entré, je sais pas pourquoi, je suis entré le premier, seul. Et là, j'ai vu la guillotine dans la cour de la santé. Et je ne m'attendais pas à la voir, bizarrement. Pas là, en tout cas. Et on avait recouvert toute la cour, tout le ciel au-dessus de la cour était ouverte, évidemment, la cour extérieure, enfin la cour de la santé, celle par laquelle on accède à la prison, on l'avait recouvert d'un immense dénoir, pour éviter sans doute des photographies prises par hélicoptère ou quelque chose. Donc c'est une immense voile de deuil qui crêpait cette cour. Et Guillotine était là. Et c'était stupéfiant à voir. Parce que tout le monde la connaît. Pressée, mais différente de la représentation que j'en avais, comme tout le monde, des photos. C'est pas ça. C'est un objet formidable. Chargé. Espèce de... Comment dire? De... Vous savez, comme ces sculptures de bois, de sacrifice humain, c'était ça, pour moi, à cet instant. Elle était plus petite, plus basse, que je ne le pensais. Et les bras étaient plus hauts et plus grêles que je ne le croyais. Ah oui. Et la lame était prête, bien sûr. Alors, c'est le long. Regardez, c'est le long. Et puis je suis rentré dans la santé. Il y avait là aussi du monde, des gens, des surveillants, des bourreaux, les assistants du bourreau. Ils sont sortis dans la cour. Mais il y a eu là ce que je n'avais jamais prévu. Le directeur nous a demandé, à nous quatre, les avocats, par lequel on commence ? Et nous sommes sortis tous les quatre dans le couloir pour décider lequel de ceux que nous avons défendus serait guillotiné le premier. Et nous convînmes aussitôt que ce serait bon temps. Mais c'était étrange que ce soit finalement à le mérer à moi. Là, le dernier service professionnel. Il soit guillotiné le premier. Puis nous sommes... parti, tout ça a été bien connu, et je ne souhaite pas l'évoquer. L'arrivée, cellule, l'homme qu'on réveille, tout ça, je ne souhaite pas l'évoquer. La seule chose que je tiens à dire, parce que ça m'avait tellement saisi, ce que le maire a fait pour bon temps, c'est ce que j'ai vu de plus admirable dans l'exercice du métier d'avocat. Parce que il connaissait bien bon temps, lui, et il l'a entouré, il le tenait par l'épaule, il l'a materné, il l'a protégé, il lui parlait tout le temps, il lui a interdit par cette parole, par là, on pourrait presque utiliser le terme. Presque. Je cherche un mot. Vous savez, oui, il faut utiliser, je crois que c'est le terme d'amour. L'amour qu'on a pour, pas du tout le sentiment, mais l'amour qu'on a pour l'être humain qui va mourir. L'amour au sens chrétien du terme. Eh bien, il était habité par ça, le maire. Et je pense que ce qu'il a fait là, bien peu d'êtres humains en étaient capables. Et assurément, je crois que dans ces moments-là, il s'est, lui, quelque part fait pardonner de n'avoir pas pu sauver bon temps, si tant est qu'on peut se le pardonner. On avait une petite salle, même pas une petite salle, une petite encoignure. L'abbé Clavier, au moyen de la santé, avait dressé un autel et bon temps s'est confessé et a communié. Et à cet instant-là, nous étions un peu en retrait, enfin, Philippe, lui, était à côté de bon temps, moi de l'autre côté. Je regardais l'abbé Clavier confesser, écarter un petit peu bon temps. Et il y avait attendant, très proche, les gardiens. Et puis, il y avait les magistrats qui étaient là, le directeur de la santé. Et le visage était terrible, terrifiant. La crispation des visages, les rictus, c'était l'aube en plus. Les traits étaient accentués. Ils avaient tous, et moi sûrement aussi, tous changé de tête. Et je l'ai dit, ils avaient... Tous et moi aussi, des gueules d'assassins. C'était terrible. Ces rictus, ces visages. Souffle l'abbé Clavier. Et bien sûr, bon temps. Quand nous sommes ressortis, après, les juristes se sont précipités. Nous sommes repartis en les écartant. Et puis, Philippe a repris sa voiture. Et moi, j'ai marché tout le long du mur de la santé vers le boulevard Rago. Et j'ai repoussé les journalistes. Et j'ai traversé l'avenue. Il y avait ma femme qui était là, qui m'attendait dans la voiture. Et je suis remonté dans la voiture. Et là, je me rappelle, il y avait beaucoup de brouillard, c'était l'aube. Elle m'a pris la main, mais machinalement, je nettoyais la vitre comme ça. Je regardais toujours ce boulevard, Nous montions là, vers la place d'Enfer Rochereau, tout doucement. Et moi, j'essuyais la vitre. Et c'était fini. On est rentré, on a retrouvé tout comme on avait laissé. La lumière encore était là. Et il était plus 6 heures du matin, quelque chose comme ça. 5 heures du matin. Non, 6 heures. Et puis, il est très froid. Et finalement, je me suis relevé. J'ai dû rester très peu de temps allongé dans la nuit. Froid. Et puis je me suis relevé vers 8h, 7h30, je ne sais plus, tôt, 7h peut-être. Bon. En tout cas, j'ai décidé que j'allais faire mon cours. Je ne pensais pas quand j'étais revenu de la santé, je me suis dit non, il faut continuer comme si de rien n'était. Et je suis parti à Amiens, où j'étais professeur, pour faire mon cours de droit des affaires. J'enseignais à ce moment-là la faillite, le droit de la faillite. Et j'ai fait cours, je me rappelle très bien. J'avais quand même une heure de retard, j'avais fait téléphoner que je serais en retard d'une heure. J'en pensais que je n'irais pas, puisque tout le monde savait ce qui s'était passé. Et il y avait un silence dans la salle. Je verrai toujours les visages des étudiants qui regardaient leur professeur et décomposés sûrement, et qui s'appliquaient tellement à faire comme si de rien n'était advenu. Ils ont été très gentils. Ils sont venus après, comme ça, pour être là. Ils n'ont rien dit. Plutôt, je les ai devancés, je me suis dépêché de leur parler des prochains cours, de ce qu'il fallait voir, de banalité. Et puis je me suis enfui et je suis rentré à Paris. Et à la gare, j'ai acheté un journal, un seul, partout, titre sur l'exécution, la double exécution. Et dans le train, j'étais très là. J'ai compris ce que signifiait cette exécution. D'abord, que c'en était fini de toute espérance de l'abolition pendant le septennat de Pompidou, et que, en ce qui me concernait, dorénavant, je combattrai la peine de mort de toutes mes forces et aussi longtemps qu'il le faudrait, et que l'abolition deviendrait pour moi un but, une cause première. Et je me suis là dans le train, entrant, juré que quel que soit le crime commis, quel que soit l'auteur, s'il encourait réellement la peine de mort, je le défendrais, s'il me le demandait. Et que je continuerais. Mais que je ne pouvais pas accepter ce qui s'était passé là. Et je suis revenu là, à la gare du Nord, je suis rentré chez moi, j'ai écrit. C'est tout ce que je pouvais faire encore pour Bontemps. J'ai écrit aux parents de Bontemps une lettre où je leur ai raconté qu'il était mort avec courage, ce qui était vrai. C'était important pour le père, parce que je savais que c'était un ancien combattant, la guerre de 14. Je voulais beaucoup qu'il sache que son fils avait été courageux devant la mort. Et à sa mère, j'ai écrit qu'il avait communié, il s'était confessé. Il avait communié parce que je savais que elle était pratiquante, très catholique et très pratiquante. Puis j'ai été mettre la lettre à la poste. parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Ouais. Et je suis revenu chez moi glacé jusqu'à l'os. Et c'était là vraiment fini. Enfin, fini. L'affaire Bontemps.
C'était L'Exécution, la sixième des 15 émissions avec Robert Badinter au micro de Joël Calmette dans Mémorable. Première diffusion le 11 février 2002 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.